Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Affaires internationales, c'est la rubrique animée par Thierry de Montbrial et François Dorcival, tous deux membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Parmi les sujets brûlants de l'actualité internationale, ils ont choisi d'évoquer dans cette émission, enregistrée début novembre 2009, la politique étrangère des États-Unis, l'Afghanistan, le Pakistan et la gouvernance économique de l'Europe. Retrouvons immédiatement François Dorcival.
Cher Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Nous voici donc en train de préparer cette deuxième édition de notre émission d'éclairage de l'actualité internationale. Or, vous arrivez de Marrakech, où vous avez présidé la World Policy Conference dont vous êtes l'initiateur. Vous allez partir pour Washington. Je vois que Mme Hillary Clinton, la secrétaire d'État des États-Unis, suit en quelque sorte vos pas. Et donc, j'aimerais que nous revenions sur l'actualité internationale de ces jours-ci, qui me paraissent marquées par deux anniversaires. Le premier, c'est un an après l'élection de Barack Obama. Le deuxième, c'est 20 ans après la chute du mur de Berlin. Sur l'élection de Barack Obama, il me semble qu'il y a deux sujets. Le premier est économique et nous avons de bons chiffres de l'économie américaine puisque celle-ci retrouve la croissance. Les derniers chiffres nous donnent 0,9% de hausse, ce qui voudrait dire 3,5% de hausse en rythme annuel. C'est un vrai chiffre. Et puis, il y a la diplomatie. Je dirais qu'en contraste avec les bons chiffres de l'économie américaine, on a le sentiment que la diplomatie américaine, elle, est en panne, ou en tout cas en attente. Alors après ce que vous avez entendu et, je dirais, débattu à Marrakech, qu'est-ce que vous retenez de cela ?
Écoutez, le sujet de Marrakech, c'était la reconstruction de la gouvernance mondiale, politique, économique, mais aussi sous tous les aspects spécialisés, comme les problèmes d'énergie, de santé, d'eau, de migration. C'est une œuvre de longue haleine. Et d'ailleurs, cet exercice de très haut niveau, et avec une participation, en l'occurrence, de plus de 30 pays, dont beaucoup de Sherpas, y compris le nôtre, qui est d'ailleurs un de nos confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Jean-David Lévite est voué à se reproduire année après année. Alors, nous n'avons pas spécifiquement débattu de l'actualité. Je vais donc plutôt vous parler de l'actualité à l'instant, et quitte à revenir sur des aspects plus à moyen terme. Alors, moi, je ne suis pas surpris de signes positifs pour l'économie américaine. Je pense qu'une capacité fondamentale des États-Unis, c'est précisément celle de s'adapter rapidement, de corriger leurs propres erreurs. C'est une remarquable qualité américaine. Ils ne sont pas butés comme d'autres, comme nous, par exemple, parfois. Oui. Et quand ils voient qu'ils ont fait fausse route, ils sont capables de retourner très rapidement leur veste. Et ils ont cette qualité énorme, n'est-ce pas, de rebondir, de retrousser leurs manches. Si quelqu'un doit travailler 50% de plus en gagnant 40% de moins, eh bien, ils savent le faire. Travailler plus en gagnant moins, c'est quelque chose que les Américains savent faire. Et finalement, d'ailleurs, ils s'y retrouvent. Donc moi, je pense que les Américains vont rebondir dans cette crise, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire du tout que tous les problèmes soient réglés.
Bien sûr.
Et une de mes craintes, sur le plan économique, toujours, c'est que ce sentiment que finalement les choses commencent à s'arranger, etc., ne conduise à relâcher l'attention et peut-être à ne pas prendre les mesures de gouvernance. Là, on en revient à la question de la gouvernance,
au thème de
Marrakech, qui par ailleurs s'impose. Par exemple, ne risque-t-on pas de retrouver de nouvelles bulles, de retrouver de nouveaux excès, des comportements irrationnels, non maîtrisés, non encadrés, etc. Tout ça, ce sont des vraies questions. Alors, en ce qui concerne maintenant la diplomatie, je suis assez interrogatif. Et du reste, à Marrakech, vous voyez bien aussi, il y a une sympathie générale pour Obama. Peut-être d'ailleurs que les plus durs à l'encontre d'Obama se trouvent aux États-Unis, où il y a une opposition féroce et même d'une cruauté, d'une méchanceté qui est absolument terrible. Y compris, naturellement, chez les républicains et les néoconservateurs. Un homme comme Cheney, généralement les anciens présidents ou vice-présidents se taisent, Cheney continue à être extrêmement virulent. C'est qu'il y a des menaces de mort qui circulent en permanence sur Internet. Alors là, je suis un petit peu plus dubitatif et on peut en parler plus en détail si vous le souhaitez.
Oui, parce que on a vu Hillary Clinton donc, venir également à Marrakech après avoir tenu des propos très aimable à l'égard de Netanyahou, se faire naturellement accrocher par les dirigeants arabes, conduite à revenir sur une partie de ses propos. Bref, on a l'impression qu'elle-même revenait d'ailleurs du Pakistan, où elle avait trouvé une situation extrêmement dégradée dans ce pays, que les choses sont tout de même très immobiles dans la négociation proche-orientale. Alors, est-ce que les Américains jouent tout le rôle qu'ils pourraient jouer là pour faire évoluer la situation ? N'est-ce pas le cas ? Si ça n'est pas le cas, est-ce que ça signifie tout simplement que nous sommes dans une situation relativement bloquée pour un moment ?
Alors, ce qui me frappe le plus, c'est que les intentions d'Obama sont, à mon sens du moins, excellentes. C'est un homme ouvert qui tient des propos généraux de bonne qualité et même qui suscite suffisamment d'enthousiasme pour que ses discours aient valu un prix Nobel de la paix, ce qui est tout de même rare, car en général, le prix Nobel de la paix est décerné plutôt pour des réalisations plutôt que pour des intentions. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'il donne l'impression de ne pas savoir se décider. Et ça, c'est inquiétant. Par exemple, en ce qui concerne l'Afghanistan,
bien sûr,
je crois qu'on en est à la quatrième demande de révision, de review process, depuis son arrivée au pouvoir. Et par exemple, il y a une lutte d'influence entre le vice-président Joe Biden et le général McChrystal, qui présente des avis très, très différents. Et le président n'a toujours pas tranché. Et non seulement il n'a pas tranché, mais certains pensent qu'il pourrait essayer de couper la poire en deux, c'est-à-dire de trouver une espèce de solution intermédiaire entre les deux, ce qui serait peut-être encore le pire des choix, voyez-vous. Et donc, d'un côté, comme je le disais à propos de l'économie, je suis toujours aussi admiratif de la capacité de rebond des États-Unis. De l'autre, je suis inquiet de cette difficulté d'Obama à décider dans des situations qui sont en effet des situations extrêmement difficiles, mais qui requièrent ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est la capacité de décider, de trancher, n'est-ce pas ?
Oui, alors on vient de le voir que ça s'applique évidemment en Afghanistan, on y reviendra, mais j'ai le sentiment que la situation est également très bloquée, pour ne pas dire verrouillée, au Proche-Orient. C'est-à-dire que là encore, les bonnes intentions ont été affichées et l'action ne semble pas suivre.
Oui, alors là aussi, l'administration Obama fait face à un monde arabe, comme toujours, relativement divisé avec ses nuances, etc., mais qui a tout de même en commun que tout le monde attend beaucoup d'Obama et l'a accueilli avec énormément de sympathie. Et puis en face de ça, un gouvernement israélien qui est extrêmement dur. Et on a le sentiment qu'après avoir manifesté de l'audace, Obama et son administration ont un peu peur d'aller jusqu'au bout de la logique de leurs annonces initiales. C'est exactement la situation devant laquelle on se trouve.
Eh oui. Alors, les deux autres terrains, je dirais les plus intenses, les plus chauds en ce moment de la planète, Pakistan, Afghanistan. Donc on voit bien que la stratégie américaine pour l'Afghanistan n'est toujours pas fixée, arrêtée. On imagine que pendant ce même temps, les Européens, eux, soient demandeurs d'une clarification de cette stratégie. Mais au Pakistan, c'est au Pakistan alors qu'il n'y a pas d'élection, c'est au Pakistan alors qu'il n'y a pas de présence ni d'occupation américaine, c'est au Pakistan que on voit les pires attentats se développer depuis quelques semaines. Alors, je dois dire qu'on sait bien que l'abcès se trouve là. On constate aussi qu'au printemps dernier, l'armée pakistanaise et donc les autorités politiques pakistanaises ont en quelque sorte abandonné certaines provinces aux talibans transfrontaliers en se disant « nous contrôlerons le reste du pays et nous allons les isoler à cet endroit-là ». Et on a bien vu ensuite que les talibans ne respectaient en rien cet isolement, mais qu'au contraire, ils allaient en profiter, ce qu'ils font. On ne voit pas bien l'issue.
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. En ce qui concerne le Pakistan, je crois qu'il faut tout de même raison garder. Je ne pense pas que le Pakistan soit sur le point de s'écrouler. Et je crois en particulier qu'il y a une classe politique qui est assez forte et que l'armée reste fondamentalement loyale. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a maintenant 17 ans, bientôt 18 ans, je fais allusion au début des années 90, au moment de la crise en Algérie avec le FIS, le Fonds islamique de salut, que n'a-t-on dit à l'époque que l'armée algérienne allait se faire complètement infiltrer par les islamistes et que n'a-t-on annoncé la victoire des islamistes, au point d'ailleurs qu'à l'époque, les Américains ont été très tentés à un moment de jouer la carte islamique contre d'ailleurs les positions de la France en particulier à l'époque. Alors, je crois qu'il ne faut pas commettre la même erreur. Et le fait qu'il y ait en effet d'assez fréquents attentats dans un pays qui est tout de même extraordinairement dense sur le plan démographique ne signifie pas forcément que tout est sur le point de s'écrouler. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un risque progressif de détérioration de la situation, mais ce que j'essaie simplement de dire, c'est que je ne pense pas que nous soyons face à un risque immédiat d'effondrement. Alors, je voudrais, si vous voulez bien, me concentrer un instant sur la question de l'Afghanistan, en effet. Alors, les talibans sont, au sens propre du terme, une puissance révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils représentent une force qui refuse tout accommodement avec le système existant. C'est la définition même d'une force révolutionnaire. Si je reprends les deux points de vue extrêmes en face auxquels j'associe les noms de Biden et de McChrystal.
Oui, les deux thèses
principales en présence. Bon, la position de Biden est fondamentalement une proposition d'organisation du retrait. Mais la proposition d'organisation du retrait, elle
tout
laisserait
quoi ? Tout le monde veut le retrait.
Oui, mais alors...
Mais comment ?
D'abord, c'est aussi la question de la défaite. Moi, je me souviens, discutant récemment en Russie avec Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, je faisais exprès de lui poser la question « Comment définiriez-vous la défaite des États-Unis ? » Et il m'a répondu avec humour, ce que d'ailleurs j'aurais répondu moi-même si on m'avait posé la même question, à savoir « Je ne sais pas comment je la définis, mais je sais que quand ça se produira, tout le monde le saura. Voilà. » Bon, en réalité, un retrait précipité qui laisserait les talibans revenir au pouvoir serait évidemment une défaite cinglante pour les États-Unis. Et non seulement serait une défaite cinglante pour les États-Unis, mais cela comporterait le risque non seulement d'un retour d'action terroriste majeure, mais également un risque de diffusion par l'exemple que l'on aurait d'une défaite américaine. Alors évidemment, ce que Biden ne propose pas de sonner la défaite, il propose de sonner la retraite, ce qui est différent puisque en stratégie, on sait bien qu'une retraite bien organisée a précisément pour but d'éviter une défaite. C'est la distinction entre une retraite organisée et la débandade qui est la définition de la défaite. Alors, mais enfin, là, on est dans les nuances. Un départ, même relativement organisé des États-Unis, serait une défaite.
Bien sûr.
Alors, et moi, je pense que le point de vue de Biden là-dessus, en tout cas tel qu'on
n'est pas majoritaire,
n'est pas raisonnable. Je crois qu'il est extrêmement dangereux. Que dit McChrystal ? McChrystal a une position qui ressemble davantage à ce que à la tradition française d'ailleurs face au problème d'insurrection. Parce qu'il faut distinguer aussi, n'est-ce pas, les aspects antiterroristes et anti-insurrectionnels. Le terrorisme, c'est par exemple les actions d'Al-Qaïda, dont le point culminant était le 11 septembre 2001. L'insurrection, c'est une attitude d'une population qui rejette une occupation. Ce n'est donc pas la même logique. Alors, l'idée générale de McChrystal, c'est de choisir un certain nombre de points, de villes en particulier, que l'on sécuriserait vraiment, c'est-à-dire et durablement, c'est-à-dire pas pour sécuriser provisoirement, oui, puis ensuite sortirait pour qu'après les gens reviennent et trucident les collaborateurs. Bon. Oui. Donc, pour sécuriser vraiment des zones, y apporter aussi un minimum d'aide constructive et réelle aux populations, sous la forme de construction, d'enseignement, etc. Peut-être pas des choses extrêmement dispensieuses, mais des choses significatives. Et à partir de là, d'essayer de faire tache d'huile. Bon. La question, évidemment, qui se pose, c'est que pour faire cela, lui, il demande 40 000 hommes. Est-ce que 40 000 hommes suffisent ? Bon, regardez combien de centaines de milliers d'hommes nous avions mis, nous, à l'époque de la guerre d'Algérie.
Oui, et même quand on a fait les opérations d'Irak, c'était dans le Golfe, il y avait également centaines de milliers d'hommes. Et de la même manière, avant de revenir à 110 000 hommes en Irak au cours des dernières années, il y a eu également beaucoup d'hommes.
Absolument. Par conséquent, on voit bien qu'on est dans une côte mal taillée. Et si, par exemple, le choix d'Obama, au bout du compte, penche vers McChrystal, mais en disant « c'est pas 40 000 hommes qu'on va vous donner, mais c'est 15 000 », là, vous voyez, là, on est, je pense, très mal, parce que McChrystal ne pourra pas mettre en œuvre. Déjà, 40 000, je dis, c'est extrêmement peu. Et donc, on ne pourra pas aboutir. Alors, ajoutons à tout ça ce que les Russes et avant eux les Anglais savent bien, que il n'est pas facile de gouverner l'Afghanistan, déjà à l'intérieur de l'Afghanistan, mais surtout de l'étranger. Ajoutons-y qu'il y a des trafics, en particulier la fameuse drogue, etc., auxquels Karzai et sa famille sont associés. Enfin, l'ensemble donne en effet une impression extrêmement fâcheuse. Et je pense que toutes ces questions, et c'est d'ailleurs un petit peu de ça dont je vais parler aussi avec pas mal de très hautes personnalités américaines, tout cela est à la fois très préoccupant, très urgent et engage en partie l'avenir de l'Alliance Atlantique.
Bref, je crois que nous aurons à revenir sur ce sujet de toute évidence occuper l'actualité mondiale dans les mois qui viennent. L'autre anniversaire que je citais au début de cet entretien, c'était les 20 ans du mur de Berlin. Ces 20 ans coïncident avec le moment où nous allons enfin pouvoir ratifier finalement le traité de Lisbonne, c'est-à-dire avoir l'équivalent d'un fonctionnement de l'Europe qui ressemble à quelque chose. Et pourtant, en face de ce traité de Lisbonne, nous constatons aussi, et ceci nous le devons à la crise financière et économique, au chômage qui se sont déclenchés, nous voyons bien que ce sont les États qui ont pris leurs responsabilités beaucoup plus que l'Union européenne en tant que telle. Toutefois, dans ce décor, il est certain que le nouveau gouvernement allemand issu des élections du mois de septembre, la politique auquel sont parvenus dans leur pacte de gouvernement les chrétiens-démocrates et les libéraux, cette baisse d'impôts notamment de 23 milliards d'euros pour le budget 2010, fait que l'accord entre la France et l'Allemagne n'a jamais été aussi profond qu'il l'est aujourd'hui, après avoir traversé, comme on le sait bien, il y a 2 ans, des périodes bien plus difficiles. Et donc cet accord, au moment où nous ratifions le traité de Lisbonne, fait qu'on a le sentiment que l'Europe a peut-être là une capacité, elle aussi, de rebondir, et peut-être de rebondir dans le prolongement de ce qui se passe aux États-Unis.
Il y a évidemment beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. En ce qui concerne ce qu'on appelait le couple, le moteur franco-allemand, la terminologie varie. Il faut bien voir que depuis le début, il y a eu des hauts et des bas. Rappelons-nous, après De Gaulle Adenauer, ensuite à l'époque de Pompidou et de Heath, on a plutôt eu l'impression qu'on allait plutôt vers les Anglais. Bon, il y a eu ensuite
Giscard-Schmitt,
et on avait dit que comme Schmitt ne parlait pas français ou n'avait été plutôt tourné vers le nord, etc., ça se passerait mal, et ainsi de suite. Et quand Kohl a disparu et qu'est arrivé Schröder, le premier né après la guerre, on avait dit voilà, c'est fini, etc., etc. Puis en effet, il a fallu 2 ans à Schröder pour se mettre à s'intéresser à ces questions, moyennant quoi il y a eu une relation extrêmement forte, mais qui avait mal commencé. Donc je crois que le même type de schéma continue avec des hauts et des bas. En réalité, je crois qu'une entente franco-allemande est un élément, une condition absolument nécessaire pour faire avancer quoi que ce soit en Europe. Et aussitôt, on doit ajouter que ce n'est pas une condition suffisante, et qu'elle est même moins suffisante encore aujourd'hui que jamais, parce que malgré tout, il faut arranger des accords avec un nombre assez élevé de pays. Alors, entente aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, oui, et d'ailleurs je m'en réjouis. Maintenant, il faut voir qu'il y a tout de même des nuances. Par exemple, vous venez de faire allusion aux compromis économiques
qui
ont été faits dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement. Mais enfin, il y a un point qu'à mon avis, on ne souligne pas suffisamment en France, qui est que les Allemands ont inscrit dans leur constitution le retour à l'équilibre budgétaire, à un horizon relativement rapide, je crois autour de 2020, je n'ai plus la date exacte en tête, mais enfin, c'est le seul pays qui a pris des engagements aussi fermes, aussi rigoureux, et même si l'Allemagne a laissé filer un peu ses déséquilibres, elle l'a laissé filer plutôt moins que les autres, et en tout cas, elle au moins avait une excuse, qui était la réunification allemande, qui a été d'un coup absolument phénoménal. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais personnellement que la France manifeste aussi une vision économique aussi précise et aussi rigoureuse sur le moyen terme que le fait l'Allemagne, parce que l'aspect économique dans tout cela est absolument majeur. Alors, cela dit, il faut tout de même se réjouir, car en effet, le traité de Lisbonne va enfin être mis en œuvre, malgré quelques petites réserves ici ou là pour tenir compte des particularités. On peut en espérer un fonctionnement meilleur des institutions. N'en espérons pas pour autant des miracles.
Un dernier point, est-ce que, comme moi, la cherté de l'euro par rapport au dollar vous inquiète? Je veux dire par là, nous avons, nous Français en particulier, un très gros déficit commercial. Il est vrai que ça n'est pas le même cas pour les Allemands, mais il est sûr que les Américains laissent aujourd'hui filer le dollar, et quand on a un euro à 1,50 $, évidemment, c'est un gros handicap pour nos propres exportations.
Alors, bien sûr que c'est un handicap pour nos exportations. Bon, il y a aussi quelques avantages, parce que le fait que les importations soient à bas coût, et
quand elles sont en dollars,
l'effet sur le niveau des prix, etc. Oui, parce qu'il faut voir aussi les autres monnaies. Naturellement, il ne faut pas voir uniquement le dollar. Mais disons que cette affaire du niveau de l'euro appelle de ma part 2 remarques qui se situent peut-être à un niveau plus en amont. Le premier, c'est qu'il faut bien qu'on en arrive tout de même à quelque chose comme une meilleure gouvernance économique européenne. Je ne vois pas comment la zone euro pourrait survivre indéfiniment sans que les membres de cette zone euro, les États membres de la zone euro, ne se mettent d'accord sur un certain nombre de principes de coordination de leur politique économique. Par exemple, sur la question des déficits budgétaires. Je crois que c'est évident. Et du reste, je rappelle qu'au moment de la création de l'euro, un certain nombre d'économistes, en particulier américains, pensaient que la zone euro ne serait pas viable s'il n'y avait pas quelque chose de ce genre. Parce qu'un économiste aussi distingué que Martin Feldstein de Harvard était même allé à l'époque jusqu'à prédire que la question de l'euro provoquerait des guerres. Il a poussé le bouchon un petit peu loin. Mais je pense qu'il y a un véritable problème de menace existentielle sur l'euro. Alors certains font remarquer à juste titre que Sortir de l'euro est extraordinairement difficile, pas seulement techniquement, mais aussi parce que les États ont des dettes qui sont libellées en euros. Et au fond, le seul État qui pourrait éventuellement gagner à sortir de l'euro de ce point de vue-là, je veux dire, ce serait l'Allemagne, paradoxalement. Mais en tout cas, cette question de la gouvernance, je ne dirais pas d'une politique économique de l'Europe, enfin de l'Union européenne ou de la zone euro, je n'y crois pas trop, mais en tout cas de gouvernance, c'est-à-dire de pratique, de coordination un petit peu forte, cette question me paraît une question fondamentale. Et la deuxième remarque, qui d'ailleurs est faite notamment par les Chinois et qui a été reprise aussi par d'autres, y compris du reste par les Français, dont c'est une position traditionnelle, c'est la question du système monétaire international. C'est la question du système monétaire international. Et dans quelle mesure peut-on, c'est toujours la même question qui est posée depuis des décennies, dans quelle mesure peut-on garder des systèmes ouverts, c'est-à-dire avec un faible degré de protectionnisme, lorsque les monnaies varient dans des proportions qui ne sont pas justifiées par les fondamentaux, mais derrière lesquelles les problématiques de mouvement de capitaux avec des aspects spéculatifs, pas forcément au sens du court terme, mais aussi au sens du long terme, jouent une part excessive. Voilà, je crois, deux questions qu'il va falloir bien attaquer à un moment ou à un autre, et j'espère plus tôt que tard.
Cher Thierry de Montbrial, ce sera certainement aussi un des sujets que nous aborderons dans un prochain entretien. Merci.
Merci, cher confrère.